Ça va être là, je suis conscient que, vu qu'on reprend les cours, il y a peut-être des gens qui vont arriver en retard, mais il faut commencer. C'est qu'on va commencer pareil. Il y a plusieurs nouveaux. Est-ce que c'est parce que vous êtes venus juste aujourd'hui, là, Christine, Caroline? Ah, oh, ça dépend, c'est ça. Mais c'est-tu juste aujourd'hui, comme Jacob et Josiane? Vous allez reprendre la session? Probablement. Kessing m'a donné une idée. Là. Andrea aussi, Emmanuel, ouais. Non, toi, tu es juste de visite aujourd'hui. Andrea, tu pensais-tu venir? OK, juste me donner une idée. Salut. Fait que, c'est bon. On a... ça, c'est bien, c'est plate, mais on va le faire pareil. Le dernier cours qu'on a eu, ça date du 16 décembre, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi, mais je pense que c'est 16 décembre. Puis ce cours-là, particulièrement, on était, pour une première fois, on était très peu, on était 4 ou 5 personnes. Puis je trouvais que c'était un cours, salut, je trouvais que c'était un cours qui était important pour comprendre la transition entre Genèse 3 puis le déluge. Fait qu'aujourd'hui, je vais quand même refaire une bonne partie de ce cours-là qui, supposément, n'a pas été enregistré parce que tu me dis que Jean-Pierre, tu n'as pas accès à ça sur l'Internet. Bon, c'est que deuxième raison pourquoi je vais prendre le temps quand même de repasser au travers la matière. Pas grand monde était là. Je pense que M. Prévost, vous étiez là, puis je pense à part ça. Oui, je vais faire ça. C'est que on va reprendre. Salut Lucie, il n'y a pas de problème. Fait que c'est ça, juste pour les nouveaux arrivés, il y a une feuille de présence, je le dis, non, il n'y a pas de problème. Juste la feuille de présence, je ne sais pas où qu'elle est, mais je prendrai le temps de la signer ceux qui pensaient faire le cours au complet, jusqu'à la fin de la session. C'est que, c'est ça, il y en a d'autres qui arrivent. Venez-vous-en, venez. OK, c'est ça, parce qu'il y a le cours de E qui est terminé, dans le fond, c'est ça qui arrive. Okay. Hello. C'est ça, c'est que, on prend le temps de prier, puis après ça, je vais faire quand même un petit résumé, là, juste où est-ce qu'on s'en va avec le cours pour ceux qui sont nouveaux. Là. Seigneur, on veut te remercier pour ce temps ce matin. Merci pour tous ceux qui sont ici. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous révèle qui tu es, qui nous révèle ta personne. Et je te remercie pour qui tu es. Je te remercie, Seigneur, de nous avoir choisi chacun de nous ici pour être tes enfants par ta grâce. Et on veut te rendre. Je veux te rendre gloire pour ça. Je prie bénir notre temps ensemble, d'édifier notre foi et de disposer nos cœurs et le mien à ton enseignement, Seigneur. Et mon Jésus, que je te remets cet avant-midi. Amen. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, c'est un cours qui est Genèse 1 à 11. L'idée, c'était de couvrir les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et on était rendu au début du chapitre 6 après la moitié de l'année, c'est que ça ne fly pas, ça ne va pas super vite. C'est surtout que la première partie du cours, c'était la plus dense, c'est là où il y avait le plus de questionnements. Puis, donc Genèse 1 particulièrement, là on a dû prendre vraiment beaucoup de semaines à passer au travail. On y allait verset par verset parce que de toute façon, il y avait énormément de questions ou de points qui étaient soulevés à chaque verset. C'est qu'on a passé toute la semaine de la création tranquillement. Après ça, on a eu le chapitre 2. Chapitre 2 qui était, dans le fond, c'était comme un retour en arrière. Le chapitre 2 ramène des détails sur le chapitre 1 qui ne sont pas donnés. Et qu'une bonne partie du chapitre 2, ça a été le jour 6 de la création. Le chapitre 2, il y a plusieurs détails sur le jour 6 qui ne sont pas donnés dans le chapitre 1. Là, évidemment, on a parlé beaucoup plus que ça. Ceux qui commençaient le cours peuvent poser bien des questions, là, mais c'est ça qui a été couvert. Salut. C'est que on a passé le chapitre 3 très rapidement parce qu'à un moment donné, j'ai appris que le mois de janvier et que le mois de juin, on n'avait plus d'école dimanche. Le mois de janvier, vous avez vu, on avait des temps de prière en église. Le mois de juin, ça va être la même chose aussi. Puis ça, je l'ai su comme assez à dernière minute. Puis après ça, j'ai réalisé qu'on partait aussi en vacances au mois de février, ma femme et moi. Là, c'est qu'on va être partis le reste du mois. C'est que... Il me restait tellement peu de temps dans ma tête que le chapitre 3, on est passé assez vite. C'est qu'on n'a pas beaucoup parlé là, du moment de la tentation, des conséquences du péché d'Adam et Ève, tout l'événement autour de la tentation par Satan, puis comment ça s'est passé. Là, ça, on a passé assez vite. Si on a du temps vers la fin du cours, on reviendra peut-être avec cet événement-là dans le chapitre 3. Et le dernier cours qu'on a eu, c'était le 16 décembre, puis je pense que c'est... on a peut-être fait deux cours après le chapitre 3, là. C'est que le cours du 16 décembre, puis c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble ce matin, c'est on essaie de prendre le temps de voir c'est quoi la ligne directrice de l'auteur compilateur, là, pourquoi ces événements-là ont été rapportés comme ça dans le chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, jusqu'au chapitre 6. Parce qu'on a vu ensemble que dans le chapitre 3, il y avait un verset qui est central au début de la Genèse. C'est un verset qui a été mis là, puis on va voir que l'auteur va essayer de nous montrer la réalisation de ce verset-là. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent c'est quoi le verset dans le chapitre 3 qui est central là, pour comprendre la balance des chapitres qui s'en viennent? Exactement. Là, un des premiers versets, pour ceux qui avaient déjà entendu, un des premiers versets qui est une référence à la prophétie du Messie qui va venir. Okay? Genèse 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Donc, Dieu qui parle à la femme, qui parle au serpent. Ce verset-là, on l'a décortiqué. L'idée qu'il faut retenir ici, parce que je vais me baser là-dessus pour les chapitres suivants, c'est que Dieu a fait une prophétie à ce moment-là sur qu'est-ce qui va se passer. Là, la race humaine, pour la première fois, il y était juste deux, mais là, ils ont décidé de désobéir à Dieu. On fait confiance à autre que Dieu. Et là, Dieu dit qu'il va y avoir une inimitié, qu'il va y avoir une séparation, une inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire? Comme je vous dis, je ne referai pas le cours qu'on a déjà fait. Dieu est en train de dire qu'à partir de ce moment-ci, il va y avoir une séparation, une division entre ceux qui, à l'exemple de Ève, vont marcher avec le Seigneur. Quand il dit la descendance de la femme, on s'entend qu'on descend toutes de Ève, OK? Bon comme méchant, enfant de Dieu comme enfant du diable, on descend toutes de Ève. Dans le texte ici, l'idée, c'est vraiment ceux qui, à l'exemple d'Ève, vont la représenter dans sa descendance, ceux qui vont décider de mettre l'Éternel au centre de leur vie. Parce qu'on va voir, on ne va peut-être pas le revoir, mais si vous prenez le temps de relire Genèse 3, Genèse 4 avec un œil différent, vous allez voir qu'Adam et Ève, on a plusieurs indices qu'ils ont mis leur foi en Dieu après avoir péché. Souvent, on se rappelle juste qu'ils ont péché. Mais ce qu'on devrait se rappeler, c'est que par la grâce de Dieu, ils se sont confiés dans la grâce de Dieu après leur péché. Puis on voit qu'Adam et Ève, ça a été un des parents qui ont marché avec l'Éternel dans la suite de leur vie. Et donc, la descendance d'Ève qu'on parle ici, c'est vraiment celle qui va marcher à la ressemblance d'Ève. La descendance du serpent, évidemment, ce n'est pas tous les petits serpentins qui vont naître le reste. Bon, c'est pas l'idée du verset ici, ce n'est pas que les femmes ont peur des serpents pour le reste de leur jour. À la ressemblance du serpent, on sait que le serpent, on sait que Satan a possédé le serpent. On le voit dans le Nouveau Testament, il est appelé le serpent ancien. C'est tous ceux qui, à la manière de Satan, vont marcher à sa manière. Là. Donc, à la descendance du serpent, c'est ceux qui sont les enfants du diable. C'est un thème qui revient dans le Nouveau Testament. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu es un enfant du diable. On pourrait aller voir dans 1 Jean. C'est vraiment l'idée que tu n'es pas en zone neutre nulle part par rapport à Dieu. Soit que tu as été adopté par Dieu, ou sinon tu es un enfant du diable. Donc, l'idée, c'est vraiment la descendance qui, à la manière de Satan, va avoir ses œuvres puis va vivre sans égard à l'Éternel. Okay? Donc, c'est ça la prophétie ici qui est dit, puis c'est une prophétie qui va tout de suite se manifester dans Genèse 4. C'est quoi l'histoire de Genèse 4? Ceux qui se rappellent un peu, on a le premier exemple d'une inimitié entre la descendance de la femme et la descendance du serpent dans Caïn et Abel. C'est une histoire qui n'a pas été mise là pour rien. Puis on a un bel exemple ici de deux enfants d'Adam et Ève. Un qui marche avec l'Éternel, puis l'autre non. Puis là, on prend encore là décortiquer toute cette histoire-là. Je vais juste soulever les points importants, parce qu'on en a déjà parlé pas mal. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Abel est un exemple d'une personne qui marchait par la foi. Puis Caïn, bien le contraire, c'est un exemple de quelqu'un qui avait des œuvres mauvaises. Puis le Nouveau Testament, on a des beaux versets pour nous confirmer ça. On arrive Genèse 4, les deux offrent une offrande à l'Éternel, puis Dieu porte un regard favorable sur celle de Abel et non sur celle de Caïn. Caïn est frustré de ça, il est irrité de ça, et plus tard, il va planifier pratiquement son meurtre, il va amener son frère de venir dans les champs, puis il va le tuer. Puis même lorsque Dieu va intervenir auprès de Caïn, on voit que Caïn, son attitude est loin d'être une attitude de repentance lorsque Dieu va le confronter avec son péché. Caïn est irrité même devant, il est irrité avec Dieu durant tout le processus. Et donc, on va juste prendre... On avait dit aussi, là, je ne veux pas encore me... Il ne faut pas qu'elle soit allumée. C'est bon. C'est que tout ce que j'ai dit avant, peut-être que c'était pas enregistré. Ouais, c'est enregistré, pareil, OK. Donc, sans aller dans les détails encore, pourquoi Dieu portait un regard favorable sur un et non sur l'autre? C'est-tu parce que, je sais pas, c'est-tu parce que le Caïn a amené des fruits pourris? C'était pas ça l'idée, là. Vraiment, on voit que les deux ont amené quelque chose de bien de ce qu'ils faisaient, de leur école. Mais c'est clair, dans le texte, on voit dans le Nouveau Testament, nous, on n'a pas toutes les conversations que Dieu a eues avec Adam et Ève. On n'a pas tous les détails, là. Nous, on a une partie de ce qui s'est passé, mais c'est passé plus que ça. Je veux dire, Caïn et Abel sont rendus à un âge adulte quand ça s'est produit, tu sais, on n'a pas tout ce qui s'est passé pendant qu'ils ont grandi. Il y en a eu du temps qui s'est passé. Maintenant, on arrive là, c'est clair que Dieu avait donné de l'information par rapport à ce qui lui plaisait en termes d'offrande puis de sacrifice, parce qu'à ce point-ci, il arrive et il offre une offrande à l'Éternel. C'est que nous, on arrive dans le texte et on ne savait même pas que l'Éternel aimait les offrandes. Quand tu lis la Genèse la première fois, c'est que tu dis, bon, il doit sûrement des guidelines, il doit sûrement avoir des trucs, des prescriptions que Dieu a dit à Adam et Ève de ce qu'il aimait, de ce qu'il n'aimait pas. Ça ferait du sens dans ce texte-là de comprendre pourquoi Dieu a préféré une offrande à un autre. Puis lorsqu'on voit la réaction de Caïn après puis son style de vie, on comprend fort bien que on peut mieux comprendre que Caïn soit arrivé avec son offrande puis qu'il s'en est un petit peu foutu de ce que Dieu avait à dire. Il est arrivé, lui, avec ce que lui pensait qui était correct d'offrir à Dieu. Tu sais. Puis tout ce que je dis là, ça a l'air pas été écrit dans le texte, mais je vais vous sortir les versets dans le Nouveau Testament qui nous le confirment. Mais c'est clair que déjà, dans la sorte d'offrande que chacun a offert, il y en a un qui est en train de suivre les prescriptions de l'Éternel. Donc, il a amené les premiers, je ne sais pas si c'est les premiers-nés, mais il a amené des prémices de ses moutons, peu importe. Là, il était berger de petits bétails, de ses animaux. Déjà, que le fait qu'on en a parlé, le fait qu'Abel était berger, ça servait à quoi? Il n'avait pas le droit de manger de la viande à l'époque, on en a parlé. Tu sais, c'est que, oui, peut-être qu'il aurait pu s'en servir pour la laine ou peu importe, là, pour s'habiller. Mais c'est clair que, prioritairement, c'est parce que Dieu avait certainement déjà enseigné sur la nécessité puis l'appréciation des offrandes. C'est qu'à quelque part, si tu vas offrir des offrandes où est-ce que le sang coule, bien, tu dois avoir des animaux qui sont domestiqués puis dont tu prends soin. C'est qu'à quelque part, c'est une des raisons pourquoi Abel, entre autres, était berger. C'est que là, on arrive... moi, il y a quelques versets que je veux vous lire dans le Nouveau Testament. On les a déjà vus là, rapidement, mais je vous les relis encore. Je vous relis rapidement Hébreux 9, 22. « Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Ça, c'est d'après la loi, sous la loi de Moïse. Mais c'est un verset que je veux juste mentionner, c'est intéressant que sous la loi, le principe d'effusion de sang est important, que le sang coule pour qu'il y ait pardon. Donc, on pourrait s'imaginer que même avant la loi de Moïse, Dieu avait peut-être établi un principe qui était similaire à ça. Maintenant, le verset qui m'intéressait, Hébreux 11, 4, c'est par la foi qu'Abel... Donc, c'est déjà intéressant, là, parce qu'Hébreux nous confirme comment qu'Abel a offert son sacrifice. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle, c'est par cette foi-là qu'il a eu, qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est qu'ici, même dans le Nouveau Testament, l'auteur nous confirme qu'Abel, lorsqu'il est arrivé devant Dieu, il est arrivé avec la foi. Et c'est par cette foi-là qu'il était déclaré juste, puis c'est pour ça que Dieu a apprécié ses offrandes. On va dans 1 Jean 3. 1 Jean 3 nous parle de Caïn un peu plus. 1 Jean 3, 10 à 12, ça c'est toutes des choses que vous allez avoir dans les notes, là, si vous ne les avez pas déjà reçues. Avez-vous déjà reçu les notes pour Genèse 4, ceux qui suivaient les notes de près là, par courriel? Je ne pense pas que ça va être à envoyer. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc déjà, on a le même thème qui revient que je vous ai parlé dans Genèse 3, mais là, c'est dans le Nouveau Testament. « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » C'est qu'on a un beau verset ici qui nous confirme c'est quoi qui s'est passé dans Genèse 4. On avait vraiment ici Caïn était déjà une personne que sa vie était une d'œuvres qui n'étaient pas soumises à Dieu, des œuvres mauvaises, des œuvres de la chair. Il faisait sa vie comme bon lui semblait. Puis si on prendrait le temps de regarder toute sa réaction au jugement de Dieu, on voit un homme très, très arrogant. Il dit à Dieu après avoir tué son frère, est-ce que je suis le gardien de mon frère? T'sais, bien insolent là, en répondant à l'Éternel. Donc, déjà là, on voit un premier récit où ce qu'on a l'inimitié entre la descendance de la femme, la descendance du serpent, qui est exemplifiée avec Caïn et Abel. Et là, Dieu est bon avec Caïn parce que malgré le fait qu'il ne marchait pas avec l'Éternel, malgré le fait qu'il a tué son frère, il est insolent envers Dieu lorsque Dieu le reprend. Et là, Caïn n'est pas repentant. Là, quand Dieu lui donne une conséquence à son péché, il dit au verset 11 et 12, il dit « Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et tremblant sur la terre. » Donc, il donne une conséquence à Caïn. C'est Caïn, c'est pas... Bon, sa réaction face à ça, c'est pas la repentance qui l'amène à vouloir marcher avec Dieu. C'est que là, il y a la chienne, il y a la crainte. Il dit, ça n'a pas de sens que tu me donnes comme châtiment. Il va faire quoi, moi, là, errer loin, ça et là, sur la terre? Le reste de ma famille qui entend parler de ça, va me faire tuer, là, mais qui sache que j'ai tué un de mes frères. Parce qu'on s'entend qu'à ce point-là, je ne sais pas quel âge qu'ils ont, mais Adam et Ève, ils n'ont pas chômé. Là. Il y a eu d'autres enfants aussi dans le lot. C'est qu'il y a déjà bien du monde là, qui sont sur la planète à ce point-là. Là. Dieu avait dit de remplir la terre. Hein, de remplir la terre, c'est ce qu'ils font. Donc, Caïn est inquiet pour lui-même. Okay? Ce n'est pas de la repentance, il est inquiet pour lui-même. Puis là, on voit encore la grâce de Dieu. Dieu aurait bien pu dire, non, tu sais, va-t'en justement, tu vas te faire zigouiller, tant pis pour toi. Non, c'est pas ça qu'il a fait. Dieu a donné une protection spéciale à Caïn. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais il a mis un genre de signe ou il a mis quelque chose sur Caïn qui ferait en sorte que les gens reconnaîtraient que Caïn a une protection particulière de la part de Dieu. Puis, à cause de ça, les gens, les autres frères de Caïn, etc., ou ses neveux, n'y toucherait pas à cause qu'il y aurait la protection de Dieu. C'est qu'on a au verset 15, Dieu dit, l'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouveraient ne le frappent pas. Et Caïn sortit de la présence de Dieu. Maintenant, on arrive au verset 17 à 26, puis aussi on a vu ça, c'est un des textes qu'on a vu pour la première fois le 16 décembre. 17 à 26 dans le chapitre 4, le but de ce petit paragraphe-là, si on veut, c'est de nous montrer la descendance de Caïn, la descendance du serpent. Voici à quoi ça ressemble après plusieurs générations, la descendance de peuples ou de groupes de personnes qui n'en ont rien à cirer de l'Éternel, qui vivent leur vie sans que Dieu fasse partie de leur décision, qu'il fasse partie de ce qu'ils vivent. Okay? Puis là, on a cette description-là de cette descendance-là. C'est pour ça que je vous dis que le chapitre 3, le verset 15, c'est important parce que le reste du texte suit, démontre cette prophétie-là. C'est qu'on avait pris le temps de passer au travers. On peut repasser quand même au travers ces versets-là plus ou moins rapidement. Peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, mais une des premières choses que Caïn fait lorsqu'il quitte, première chose qu'il fait, c'est qu'il connaît sa femme. Bon, il a dû prendre une de ses sœurs comme femme. Il l'a connue. Là, on pourrait revenir en arrière. À l'époque, c'était pas contre la loi de Dieu de marier sa sœur. sa cousine est un petit peu... Non, mais elle ne peut pas être sa cousine parce qu'Adam et Ève n'ont pas de frère ni sœur. C'est que dans le fond, il faut... Oui, c'est ça. Ça pourrait être une nièce, admettons. Oui, il aurait pu avoir une nièce ou sa sœur. Sa sœur ou une nièce, peu importe. C'est ça. Donc, à ce point-là, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, on ne reviendra pas là-dessus. Dieu n'a pas établi des barèmes qui limitaient ça. Et puis, ça a été plus tard sous la loi de Moïse. Puis même aujourd'hui, on sait au niveau génétique, c'est une bonne affaire que Dieu ait mis des limites là, parce qu'il part des problèmes de consanguinité puis de maladies génétiques spéciales lorsqu'on se marie avec des parents trop proches. Là. Même, on peut regarder dans les monarchies, dans le Moyen-Âge, là, il y a eu des problèmes à cause, justement, ils faisaient du inbreeding, ils se mariaient entre eux autres. Là, t'sais. Donc, peu importe, sujet à part, Caïn, la première chose qu'il fait, Dieu vient de lui dire qu'une de ses conséquences, c'est qu'il va être errant sur la terre puis il ne pourra pas mettre son pied à une place, qu'il va toujours bouger, il va être nomade. T'sais. Première affaire, Caïn va, s'en va se bâtir une ville. Okay, c'est que le gars, lui, on voit déjà son intention, c'est pas... Oui, Dieu a dit ça, mais moi, je vais m'occuper de mes affaires, je vais prendre ma vie en contrôle, ça en va se construire une ville. OK? Et après, on construit sa ville. Après ça, on a toute une série une généalogie, si on veut, de sa descendance. Ce qui est intéressant, c'est quand on passe à travers tous les descendants de Caïn, C'est pas des mauvaises choses qui nous sont mentionnées, mais c'est seulement ça qui nous est mentionné. Ça nous est mentionné comment, de sa descendance, il y a eu énormément d'avancées technologiques, puis de développement, puis d'invention, puis de création humaine. Là, on regarde, on arrive au verset 20. Ada accoucha de Yabal. C'est lui l'ancêtre des éleveurs nomades. C'est que bon, c'est, ils ont là, on nous mentionne que de la descendance de Caïn, il y a quelqu'un qui a développé toute la question de l'élevage, puis de l'élevage qui implique aussi de se déplacer. Okay? Après ça, on arrive au verset 21. C'est le nom de son frère était Yubal. C'est lui l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Ben là, ils ont quand même développé la musique. Ce n'est pas rien. On s'entend que la musique en soi, c'est assez spécial. Bon, puis en plus des instruments qui vont faire la musique, etc., on pourrait en parler longtemps, il y a toute qu'une question de réflexion, puis de développement, puis d'intelligence de la part de ces personnes-là dans cette descendance-là. On arrive au verset 22. Tila, de son côté, accoucha de Tubal-Caïn, qui forgeait tous les outils de bronze et de fer. Encore là, je veux dire, il ne faut pas oublier là, que tout ça, là, c'est l'intelligence humaine qu'ils développent, puis découvrent des. Ils ont découvert les minéraux, ils ont découvert de pouvoir fusionner les minéraux, les faire des alliages. C'est quelque chose, je veux dire, on s'entend, ça s'est fait sur quelques générations, mais Dieu a créé les êtres humains intelligents. Il y a plein de choses. Je vous dis, là, on passe vite, mais il y a tout que c'est clair que pour qu'ils se rendent là, pour que dans les générations qui ont suivi Caïn, il y ait rapidement des gens qui ont initié toutes ces je me ramasse souvent des termes en anglais, human achievement, là, c'est quoi? Des accomplissements humains qui sont de grande importance, ça veut dire qu'ils ont dédié leur vie à ça. Il faut comprendre, tu dédies ta vie, tu dédies tes énergies à être capable de développer la métallurgie. Là, tu ne fais pas ça un soir de même en passant. Là, c'est que les gens se sont dédiés à ça. C'est pas mal en soi, mais comme je veux qu'on remarque dans le texte, c'est tout ce qui compte. Okay? C'est tout ce qui est mentionné. L'Éternel n'est pas mentionné, mais les accomplissements humains sont mentionnés. Puis là, on arrive au moment donné à un personnage dans la généalogie sur lequel l'auteur va nous donner un peu plus d'informations, Lémèque. Faut pas mélanger avec le père de Noé qui s'appelle Lémèque aussi. Première chose qu'on apprend de Lémèque, c'est qu'il y a plus qu'une femme. Bon, déjà là, on voit qu'on n'est pas en train de suivre les commandements de l'Éternel qui instituent le mariage, etc. Mais c'est pas là-dessus que je veux qu'on s'arrête. On veut qu'on s'arrête sur le verset 23-24, l'attitude de Lémèque. C'est probablement un des plus vieux poèmes qu'on a, le verset 23 et 24. Dans l'hébreu, c'est écrit de façon sous forme d'un poème. Puis, donc, l'auteur qui a compilé Genèse, probablement Moïse, a même pu compiler ce vieux poème-là, qui a dû subsister là, de génération en génération. Lémèque dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femmes de Lémèque, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn se revengé 7 fois et Lémèque 77 fois. Bon, vite de même, là, c'est pas nécessairement simple à comprendre comme verset. Je vous épargne toute l'étude, mais l'idée ici, c'est que l'idée qu'il faut comprendre de Lémèque dans ce poème-là ou dans cette déclaration-là qu'il fait à ses femmes, c'est un être, c'est une personne profondément arrogante. C'est ça l'idée. Là. Ce qui sort de ça, c'est qu'on a un homme qui se vante, en bout de ligne, là, ce qui finit à la fin de tout, ce qu'il dit, là, c'est qu'il se vante de lui-même, de ses propres enfants, parce que c'est ses enfants qui ont été... c'est ses enfants qui ont initié là, tout ce qui est la métallurgie, je pense, puis la musique. Il se vante de sa famille à lui, de sa descendance. Puis il dit, moi, parce que là, c'était su que Caïn était protégé de la part de l'Éternel. Là, Caïn, bon, on l'a vu tantôt que Dieu avait mis un signe sur Caïn. C'était su de sa descendance aussi particulièrement. Et Lémèque dit à la fin de son speech, écoutez, Caïn, lui, il est vengé 7 fois, mais moi, je vais être vengé 77 fois par mes propres moyens, par mes propres enfants, par mes propres possibilités à moi. T'sais. On a un homme qui est en train de dire, gars, on a notre ancêtre, qui est encore vivant ou non, là, je ne sais pas dans ce cas-là. Dieu le protégeait, puis on le sait, puis c'était connu, c'était notoire, Caïn était protégé de Dieu. Mais c'est rien comparé à la protection que je peux me donner moi, par mes propres forces, par mes fils qui ont développé la métallurgie. On va se battre, on va se défendre, c'est que moi... Moi, je peux même me permettre, dans le poème, ce que ça dit, je peux même me permettre de faire du mal à un homme, à un enfant, ce qu'il dit, faire une meurtrisseur à un enfant, puis je ne serais même pas attaqué, je ne serais même pas réprimandé de ça parce que je suis capable de me défendre. T'sais. C'est grosso modo, on a l'image ici d'un homme qui est hyper arrogant, puis justement, il est en train de se comparer à la protection que Dieu avait donnée à Caïn. Il est en train même de s'élever au-dessus de Dieu, à quelque part. Puis c'est drôle, c'est dans la généalogie, là, c'est la seule fois que ça l'arrête pendant deux versets pour nous parler d'un gars plus qu'un autre. Puis celui qui nous présente est particulièrement similaire à son ancêtre Caïn, très arrogant. On finit verset 24, on arrive au verset 25. Puis comme je dis, c'est ça le but. Hein, de ces versets-là ont été écrits pour nous montrer la descendance du serpent, puis voilà qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui les démarque. On arrive au verset 25. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné une autre descendance à la place d'Abel que Caïn a tué. Comme j'ai déjà mentionné, déjà, juste ici, on voit Ève qui parle de Dieu dans les choses courantes de sa vie. Elle vient d'accoucher. C'est Dieu fait partie de son langage, Dieu fait partie de sa vie. On voit une femme qui marche avec l'Éternel. T'sais, on dit aujourd'hui de vivre l'Évangile tous les jours, là, mais Ève, Dieu faisait partie de son quotidien. On a un exemple ici. Là. C'est que Ève dit ça de Seth. Maintenant, Seth est particulier. Il remplace dans leur cœur Abel qui a été tué par Caïn. Puis on a un indice ici que Seth est justement l'exemple de la descendance de Ève qui marche à la manière d'Ève. On va le voir, c'est assez clair plus loin. On arrive au verset 26. À Seth aussi naquit un fils qui l'appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom d'Éternel. Une phrase pratiquement pour mettre en comparaison avec les 7-8 versets qu'on vient de voir. Là, on arrête à Lémec, on recommence avec Seth. Puis tout ce que ça nous dit, c'est à Enoch. C'est alors qu'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel. C'est que c'était représentatif ici. Cette génération-là est marquée par le fait même qu'après la première génération, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel à la manière d'Adam et Ève qui devaient déjà l'invoquer. C'est que cette génération-là est marquée par ça. L'autre génération est marquée par tout ce qu'on vient de lire, de l'arrogance. L'accomplissement humain, il n'y a rien de mal en soi, mais l'accomplissement humain, en dehors de Dieu, pour le but de valoriser l'humain, pour le but de prendre le contrôle de sa vie, mais ça donne ce qu'on vient de voir. Oui, c'est clair, on le voit avec les mecs. Un verset à la fin du chapitre 4 pour mentionner que du côté de Seth, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Commence le chapitre 5. Le chapitre 5, dans le fond, c'est toute une généalogie encore de la descendance de Seth, de la descendance d'Adam. On prend le côté de Seth, puis on regarde toute sa descendance. Puis les premiers versets sont super importants. Voici le livre de la postérité d'Adam. On parle donc, voici la descendance d'Adam. Voici les gens qui vont être marqués par l'influence d'Adam, puis donc sa descendance. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. Verset 2, hommes et femmes, il les créa, il les bénit, il les appela du nom d'homme, là, avec un grand H dans ma version. Au moment où ils furent créés. Et d'ailleurs, on avait pris ce verset-là. Là. Bon, en tout cas, c'était encore les versets qu'on avait pris pour montrer que l'homme et la femme sont égales devant Dieu. Mais par contre, on n'en reviendra pas là-dessus, c'est un autre sujet. Donc, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Il n'est pas en train de dire ici que Seth, il avait les mêmes nez et les mêmes oreilles qu'Adam, puis c'était un gars qui ressemblait. C'est vraiment l'idée que Seth est à la ressemblance de son père dans comment il va être, dans comment il va vivre. Et donc, c'est pour ça que le verset 3 est important, parce que ça nous prépare pour le reste du chapitre. Parce que le reste du chapitre, on a vraiment une descendance qui marchait avec l'Éternel. Puis un des exemples qu'on a, la seule fois pratiquement, il y a deux fois dans le reste du chapitre 5, où ce qu'on va arrêter, c'est un personnage, puis on va nous en dire un peu plus. Comme on a fait avec Lémec qui descendait de Caïn. Puis le personnage sur lequel on s'arrête, ça va être tout le contraire de Lémec. Ça va être un personnage qui va être reconnu pour avoir marché avec Dieu puis avoir eu une foi exemplaire. Puis je veux qu'on arrête pour le voir rapidement. Verset 21, vous avez déjà tous entendu là, cette histoire-là. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marcha 300 ans avec Dieu. Il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. C'est qu'on a un peu plus d'informations sur un personnage, puis qu'est-ce qu'il nous a mentionné sur ce personnage-là de la descendance de Seth, c'est qu'il était reconnu pour marcher avec Dieu. Là, dans le Nouveau Testament, on a plus d'informations sur ce personnage-là, puis je voulais qu'on tourne dans quelques versets là, dans le Nouveau Testament. Le premier qui nous parle d'Enoch. Dans Hébreux 11 encore. Dans Hébreux 11, on a plusieurs témoins de la, témoin de la foi. Enoch en est un de ceux-là. Hébreux, c'est dans le même passage de ce que j'ai lu sur Abel tantôt. 11, verset 5. C'est intéressant de voir, des fois, dans le Nouveau Testament, ça complète les histoires de l'Ancien, parce qu'on n'a pas toute l'information dans le texte. L'Esprit de Dieu a permis que l'auteur dans Hébreux avait plus d'informations, peu importe comment il l'a obtenu. Là. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Donc, c'est encore, Enoch a été enlevé, c'est tout ce que ça nous dit dans le texte de Genèse, mais la vie d'Enoch était marquée par la foi. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il marchait par la foi. Il marchait avec l'Éternel. Donc, s'il marchait avec l'Éternel, c'est parce qu'il faisait confiance à l'Éternel, parce qu'il avait mis sa foi en Dieu. Contrairement à ceux qui avaient décidé qu'ils mettaient leur foi en eux-mêmes, dans leur capacité, puis qui ne marchaient pas avec l'Éternel. Ils prenaient le contrôle de leur vie un petit peu de la façon que Satan a tout suggéré ça à Ève. Là. C'était toute ça l'idée. Là. Dieu n'est peut-être pas trustworthy, Dieu n'est peut-être pas fiable. Tu ne peux pas faire confiance vraiment à Dieu. Dans le fond, Dieu veut se garder de la connaissance pour lui. Puis si jamais vous avez cette connaissance-là, vous êtes égal à Dieu. C'était vraiment ça, la tentation. C'est, tu sais, Dieu n'est pas fiable. Dieu, à quelque part, t'a pas dit toute la vérité. Prends les affaires en main, puis tu vas être bien plus heureux. C'est ce sentiment-là, cette attitude-là qui va se perpétuer dans la descendance du serpent. Or, sans la foi, Hébreux 6, 11, 6, je lis aussi ce verset, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et ça, cette foi-là, c'est la foi qu'Enoch avait, qu'Abel avait. Il croyait que Dieu existait. Il croyait que Dieu allait les rémunérer. S'il le cherchait, il savait que Dieu allait se laisser découvrir, Dieu allait se révéler à eux, selon leur recherche. Un autre texte qui parle d'Enoch, souvent c'est un texte qu'on ne se rappelle pas, j'aime le mentionner, dans Jude 1, 14. C'était Jude, moi c'est Jude 1, 14, oui. Jude, il n'y a pas juste un chapitre dans Jude? Oui. Jude 14, OK. Le personnage de Jude 14, Jude, bon, justement, c'est un chapitre, c'est pas un livre qu'on lit souvent où on oublie un peu ce que ça a à dire. Mais c'est intéressant, ça nous parle d'Enoch, le septième depuis Adam. Donc, Jude 1, 14. C'est aussi pour eux. Bon, là, pour eux, il faudrait que j'aille voir dans le contexte. Là, il parle de qui quand il dit pour eux? C'est qui, eux, dans le contexte, là, vous l'avez? Les faux docteurs? Oui, c'est ça, je pense que c'est ça l'idée. Hein. Il parle des impies, des faux docteurs dans Jude, c'est que... OK, c'est que... Je pense que c'est ça. Donc, c'est pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, donc on parle du même Enoch qu'on vient de voir dans Genèse 5, a prophétisé en ces termes. Donc, c'est intéressant. Enoch, une des façons de marcher avec Dieu, c'est qu'il prophétisait. C'est qu'il disait la vérité de la part de Dieu, puis il n'était pas gêné de s'afficher comme étant un invocateur de l'Éternel dans sa génération. On s'entend que, en même temps qu'Enoch vivait, bien, il y avait la descendance de Caïn qui est en parallèle aussi. Là, c'est qu'il y avait une inimitié entre les deux descendances. Il y avait une gang qui s'en foutait peut-être du monde qui invoquait l'Éternel, qui va même se moquer d'eux, etc. etc. Donc, on a ici Enoch qui est un prédicateur de son temps. Puis voilà ce qu'il dit. Puis de son temps, il y avait des impies du même acabit, de la même sorte un peu que dans Jude, c'est qu'on voit déjà que plus les descendances, plus les générations avançaient, plus qu'il y avait toute une partie de la population sur Terre qui rejetait l'Éternel puis qui marchait selon une façon dans l'impiété. Donc, on a Enoch qui prophétise et qui dit « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » J'imagine que de dire ce genre de truc-là à la descendance de Caïn, c'était pas super populaire. Là, c'est qu'il était en train de prophétiser puis de révéler le péché des gens qui étaient autour de lui. Donc, ça nous dit, on a un exemple un peu plus sur le monsieur, c'est intéressant d'avoir cette information-là, c'est qu'il marchait avec l'Éternel. Voilà une façon de marcher avec l'Éternel du temps où ce qu'Enoch vivait. Donc, on est dans le chapitre 5, on continue, c'est que, vous voyez l'idée ici, tout ça, c'est important parce qu'on va arriver au chapitre 6, puis ça va être important comment qu'on, interprète le début du chapitre 6. Il faut avoir suivi l'idée de l'auteur. Là. On a l'inimitié entre les deux descendances, puis c'est là dans le chapitre 4, c'est là dans le chapitre 5. Puis quand on arrive dans le chapitre 6, ça ne change pas, le sujet est encore là, parce que l'apogée s'en vient. Okay, on a l'inimitié entre les deux descendances. Là. L'apogée, ça va être le déluge. Puis pourquoi est-ce que le déluge va arriver? C'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus inimitié entre ces deux descendances-là avant le déluge. Puis c'est ça qui va faire déborder la goutte du vase, c'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus cette séparation-là. Puis Dieu va décider qu'il va se repentir d'avoir créé, puis il va décider qu'il va tout repartir à zéro. Okay? Et là, on arrive au début du chapitre 6. Puis comme je vous dis, moi, je dis c'est la façon d'interpréter, mais je suis pas mal sûr de mon affaire, c'est que je le présente comme ça, même si je le sais qu'il y a eu plusieurs interprétations du début du chapitre 6. Pour moi, pour avoir une bonne interprétation, comme je l'ai dit, il faut être dans le contexte. Le contexte, on vient de le voir. On vient de voir le contexte, on est en train de bâtir de quoi, lorsque deux générations qui vivent en parallèle d'une façon très différente. Là, on arrive au début du chapitre 6, juste avant le déluge. Qu'est-ce qui se passe entre ces gangs-là qui invoquaient le nom de l'Éternel pendant un temps? On a l'exemple d'Enoch. On a même l'exemple de Lémec que je n'ai pas mentionné, un deuxième Lémec, le père de Noé. Lui-même, quand Noé est venu au monde, Lémec parle de Dieu dans son discours et dit « C'est lui qui va nous libérer de la misère qu'on a de cultiver la terre, blablabla. Bla, » bla. Mais on voit que Lémec est même conscient de la présence de Dieu, conscient que si on a de la misère à cultiver la terre, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu a mis une malédiction sur la terre. Et là, on arrive au début du chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette génération-là, parce que là, on va arriver avant le déluge, les verbes et les versets vont être assez forts. Ils vont dire que toute la terre au complet fait le mal. Chaque jour, l'être humain se lève et son cœur est porté vers le mal. Ça va être les versets, les phrases qui vont être utilisées avant le déluge. Mais là, je veux dire, il n'y a pas longtemps, on avait une descendance qui marchait avec Dieu. Elle est rendue où elle est là pour qu'elle ait juste Noé qui a trouvé grâce auprès de Dieu. Il y a une gang de monde qui ont lâché, qui ont arrêté d'invoquer l'Éternel à un moment donné. Puis c'est vraiment le début du chapitre 6 qui nous dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus personne qui invoque l'Éternel, puis tout ce qui reste sur la planète, c'est un homme juste, puis le reste... Puis les expressions sont fortes. Là. C'est vraiment le cœur porté vers le mal du matin au soir. C'est pas beau. Là. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ce fut parmi elles qu'ils choisirent leurs femmes. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas ou ne contestera pas toujours dans l'homme, car celui-ci n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont là les héros des temps anciens. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. L'Éternel dit, « J'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Bien, voilà ce qui s'est passé. Début verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, que des filles leur furent nées. Ici, pour bien comprendre le texte, c'est ça peut-être qui est mélangeant, c'est que quand il parle des fils de Dieu, si on veut rester dans le contexte, il est vraiment en train de parler de la descendance de Seth. OK? On est dans ce contexte-là, on vient juste de parler d'une descendance des fils de Dieu. Voici les gens qui marchaient à la manière de Dieu, sont appelés fils de Dieu dans ce contexte-là. Puis les filles des hommes, on doit comprendre les filles qui sont des filles de la descendance de Caïn, qui font partie de la gang de la descendance de Caïn. Et c'est là que le texte se comprend le mieux. Autrement, il y a eu toutes sortes d'interprétations dans l'histoire, parce que les fils de Dieu, c'était des anges. Puis l'idée souvent pour ça, c'est parce que... On aimait voir l'idée que les anges étaient descendus, étaient accouplés avec des hommes, ce qui est déjà assez complexe parce que dans les Écritures, les anges ne sont pas supposés être capables de reproduction. C'est que déjà, cette idée-là est assez... Puis là, ça finit avec des géants en bout de ligne, c'est que ça fit. C'est bon, si tu mets un ange avec un homme, tu fais un géant, puis là, tu sais, on embarque là-dedans, let's go. Puis, bon. Ça amène beaucoup de problèmes, disons. Mais c'est sûr que c'est le fun, ceux qui aimaient ça, faire des films de science-fiction, là, c'est le fun. Non, mais je veux pas être méchant, ceci étant dit, je veux pas m'arrêter sur d'autres interprétations, je veux juste regarder ce que le texte dit ici. Donc, les hommes commencent à se multiplier, ils ont des filles, donc la descendance de Caïn faisait juste pas des gars, faisait des filles avec, OK? Puis là, à un moment donné, les fils de Dieu ont vu quelque chose chez les filles des hommes, l'autre bord. Ils n'ont pas vu que, waouh, elles marchent avec l'Éternel, elles ont des belles valeurs, c'est donc bien le fun. Puis moi, je trouve ça cool. On va aller chercher des femmes l'autre bord avec, ça va augmenter le choix qu'on a. Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'elles étaient belles. OK? C'est vraiment ça. Puis je pense que le verset nous montre vraiment que c'est ça l'idée. C'est qu'ils se sont attardés sur quelque chose d'assez superficiel. Okay? Ils ont remarqué qu'elle était belle, l'autre bord. Puis l'expression qu'ils choisirent, et ça fut parmi elles qu'ils choisirent leur femme, dépendamment des versions, des fois ça peut être un peu plus clair la traduction. Là. Je vais juste... Peu importe selon celle qu'ils préféraient. Quand ça dit dans vos versions, ils en prirent pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent, là, l'expression parmi toutes celles qu'ils choisirent, on pourrait traduire aussi, comme je viens de dire, peu importe selon celle qu'ils préféraient. Il y a vraiment l'idée que le choix était un petit peu. Le choix était comme ça vient, tu sais. C'était pas basé. Ouais, tu sais, comme ça vient, tu sais, IQ, je la prends, puis tu sais, qui n'était pas selon le style de vie qu'on voyait de cette descendance avant ça, qui invoquait le nom de l'Éternel, qui marchait avec Dieu. Puis il pense que le texte ici veut vraiment nous montrer que ça a commencé comme ça. Le problème est arrivé lorsqu'il a arrêté d'avoir inimitié puis séparation entre les deux descendances. Puis ces deux descendances se sont mélangées sur la base de mariage ou d'alliance quelconque. Puis en plus, sur la base de critères assez superficiels, merci. Et voilà qu'est-ce que ça donne. Puis là, ici, le verset 2, c'est là. C'est à cause de ça qu'on se ramasse juste avant le déluge, puis il n'y a plus personne qui marche avec l'Éternel. Parce que la prophétie, ou pas que la prophétie, parce que l'idée que c'était important de marcher avec l'Éternel, puis il y avait une séparation avec ceux qui ne marchaient pas, bien, elle a disparu. Elle a disparu, les descendants de Seth ont commencé à se marier avec les descendants de Caïn. Et le résultat que ça a donné, c'est qu'on n'a plus personne qui marche avec l'Éternel. Combien de générations après, ce n'est pas spécifié, on pourrait le calculer, mais c'est ça qui est arrivé. Et là, Dieu voit ça. Ça, c'est comme le summum. C'est pendant un temps, on a une descendance qui invoque son nom. Puis là, on arrive, Dieu constate ça. Tout d'un coup, l'intérêt n'est plus de marcher avec l'Éternel. L'intérêt est d'aller chercher des femmes, d'aller chercher des valeurs, puis de s'intéresser à quelque chose autre que Dieu. Puis éventuellement, bien, Dieu ne fait plus partie du portrait. Puis là, Dieu constate ça, puis dit, « Mon esprit... » ne contestera pas toujours dans l'homme, ne restera pas toujours dans l'homme. Il dit, celui-ci n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Fait que Dieu constate ça, il dit, il est affligé par ça, il est affligé par le fait que plus personne, de moins en moins de gens vont invoquer son nom, vont marcher dans ses voies, vont vivre par la foi. Et là, Dieu décide qu'il va retirer son esprit éventuellement de parmi les hommes. Et là, on a un texte dans le Nouveau Testament que je vais aller lire aussi, qui nous explique un peu le travail que l'Esprit pouvait faire à ce moment-là. On s'entend que l'Esprit n'habitait pas comme aujourd'hui, il n'a pas fait sa demeure dans nos cœurs, mais l'Esprit de Dieu a toujours fait le même travail de convaincre de péché, justice, jugement. Il l'a toujours fait. On a vu l'Esprit au temps de la création, vous vous rappelez dans le verset 2 du chapitre 1 de la Genèse. Allons dans 1 Pierre 3, un verset intéressant qui est comme un verset parallèle à Genèse 6, 3. Quand Dieu dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme », on a un beau texte parallèle dans 1 Pierre. C'est que plus précisément, ce que Dieu est en train de dire ici, c'est que mon esprit ne va pas toujours rester contesté, jugé parmi les hommes, parce que c'est bénéfique d'avoir l'esprit de Dieu qui convainc de justice, de péché, de justice, de jugement. C'est une bénédiction de la part de Dieu que son esprit soit en nous aujourd'hui, mais qu'il était aussi en train d'œuvrer parmi les hommes à travers des prophètes, à travers la prédication. Il était là et c'était une bénédiction pour les hommes. Et Dieu dit qu'elle a retiré cette grâce-là, cette bénédiction-là. 1 Pierre 3, 18. C'est un texte qui exprime bien le travail que l'Esprit faisait spécifiquement durant le temps de grâce que Dieu a décrété. Je suis un peu en avant de moi-même ici, là, mais quand il dit que ces jours vont être de 120 ans, Dieu n'est pas en train de dire qu'à partir de maintenant, personne ne va vivre que plus que 120 ans. T'sais, moi, j'ai pensé ça un temps dans ma vie, puis tu sais, quand on regardait les records Guinness, c'était tout le temps traumatisant de voir que la femme était rendue à 122. Ça pourrait, bon. Pas grave, je ne dis pas comprendre, ça devait être des années différentes, je ne sais pas trop. C'est pas ça l'idée. Dieu est en train de dire, à partir du moment où Dieu a décrété que son esprit ne restera pas toujours dans l'homme, à partir de ce moment-là, Dieu, dans sa grâce encore, parce qu'il aurait bien pu amener le déluge là, dans sa grâce, il a dit 120 autres années avant que le déluge commence puis que j'arrête de contester avec l'homme puis j'apporte le jugement. Il y a 120 ans entre le décret puis le moment que le déluge est arrivé. D'ailleurs, ça a pris au moins une centaine, quelques années à Noé à bâtir le bateau. Vous comprendrez que Noé, c'est un paquebot océanique qui a bâti. Il n'y avait pas beaucoup de main-d'œuvre. Okay? Il y avait lui, ses trois fils, trois femmes, les trois femmes de sa femme puis les trois femmes de ses fils. Huit personnes pour bâtir un paquebot océanique, puis il a fait seulement une centaine d'années. Okay? Imaginez-vous, là, je suis au devant de moi-même encore, là, mais ta vie, là, en tout cas, 100 ans à bâtir de quoi? Que le monde te ridiculise pendant que tu le bâtis, parce que ça n'a aucun rapport de bâtir un bateau, premièrement, gros de même, puis tout, ça n'a aucun rapport, le monde rit de toi. Il faut vraiment que tu sois convaincu de ce que tu fais pendant tout ce temps-là. Puis je veux dire, c'est jour après jour, on s'entend-tu que Noé et sa famille obéissaient à Dieu? Ils ne se levaient pas le matin, aujourd'hui, on s'en va faire du ski. Là. On bâtit parce que Dieu a mis un ultimatum, puis à un moment donné, Dieu va amener le jugement, puis on le croit que Dieu va amener le jugement. Puis Dieu ne va pas amener le jugement n'importe comment. Dieu va amener le jugement avec un déluge. Comme on a vu, il ne pleuvait pas avant le déluge. Il n'y avait même pas de pluie, il n'y avait même pas de nuages. Je veux dire, juste le concept par lequel Dieu allait amener le jugement était déjà, il fallait-tu que Noé il fasse confiance à Dieu? Il fallait-tu qu'il y croie, là? Croire pour passer 100 ans de ta vie avec ta famille, amener ta famille derrière toi pour bâtir de quoi, pour quelque chose que tu n'as jamais vu, puis face au reste de la planète au complet qui n'en ont rien à cirer de Dieu, puis encore moins de ce que tu fais, puis il a dû être la risée du monde pendant en masse longtemps. Puis là, 100 ans, là, c'est juste que là, c'est fou, 100 ans, c'est notre vie entière, c'est même pas, on ne se rend même pas jusque-là aujourd'hui. C'est que lui, il a fait ça pendant 100 ans. Donc, ça va aussi avec le sens que Dieu dit 120 ans avant que le déluge arrive. Et là, donc, ce que j'étais en train de dire, justement, que l'Esprit était là, il opérait à travers la parole de Dieu. On a vu que Enoch a parlé pour Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu a opéré à travers Enoch pendant un temps pour prophétiser. Il l'a fait à travers différentes personnes. Puis ça, c'est une bénédiction que Dieu a gracié l'homme de cette époque-là avec son Esprit qui était là pour corriger puis qui pour surveiller la forte tendance humaine à aller vers le mal. Et là, on a 1 Pierre 3 qui est un texte qui nous parle de ça. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. C'est surtout les autres versets qui m'intéressent. Dans lequel, donc esprit dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Une belle référence ici au fait que, bon, on ne parlera pas de Jésus dans ce contexte-ci, je vais me limiter à l'Esprit, là, mais l'Esprit a fait un travail durant les jours de la patience de Dieu lorsqu'il y avait la construction de l'arche, là, c'était durant ces 120 quelques années-là, là, mais Dieu est en train d'exercer sa patience, et non seulement il est en train d'exercer sa patience, mais son Esprit a encore fait un œuvre durant ce temps-là. Et par la bouche de prédicateurs, Noé a dû être une de ces personnes-là qui, juste parce qu'il faisait, parce qu'il prêchait, et l'Esprit de Dieu est en train d'agir. Puis il est en train d'une bénédiction pour ceux autour qui pouvaient écouter, puis peut-être décider de changer leur voix, puis de se repentir, puis de mettre leur foi en l'Éternel. Ce qui n'a pas été le cas en passant. Là, les personnes qui ont bénéficié de la foi de Noé, c'est qui? Qui a bénéficié de son désir de marcher avec Dieu, puis en ont été influencés? Ses enfants, là, parce qu'au début, ça dit dans le texte qu'il y a juste Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et pourtant, Dieu a sauvé 8 personnes. C'est clair que Noé a eu un impact sur ses enfants. 8 parce qu'il y avait sa femme à Noé aussi.
Oui, mais il y avait lui-même.
C'est ça, ça fait 8. 8. 8, ça dit 8 sites dans le texte.
Il s'est marié, c'était une personne.
Ah ouais, c'est ça. C'est qu'il était 4. Mais une chose qu'il faut comprendre, c'est que ses enfants, les trois hommes, là, ses trois fils, là, il ne les a pas attachés, puis il ne les a pas forcés à travailler avec lui, ni leur femme à eux. C'est clair qu'ils ont été influencés positivement. Je pense que avec la pression autour d'eux, ils auraient bien pu embarquer dans la société du temps qui disait que ça ne faisait pas de sens faire ce qu'ils faisaient. Donc, on a Dieu donc, qui me donne une période de grâce ici. Là, je veux juste terminer avec le verset 4, parce que j'aimerais ça parler un peu de la grâce de Dieu avant d'arriver au début du déluge. J'ai pas l'heure à matin, il est rendu quelle heure? Hein?
Donc, les
prédications que vous faites ont été utiles. Moins 10. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On pourrait vraiment s'arrêter, puis c'est édifiant de pouvoir constater Comment que Noé était vraiment un homme qui avait la foi. Pour nous, c'est pour moi, je trouve ça vraiment édifiant de juste méditer là-dessus, parce que des fois, on lit le texte rapidement, on a nos yeux de en tout cas, pour moi, j'ai été élevé depuis que je suis jeune à entendre les histoires de la Bible, puis des fois, à un moment donné, t'es vite, hein, puis tu te mets pas dans la peau des gens, puis t'oublies un peu ce qu'ils ont passé au travers. De quoi, ça?
Ouais.
Moi, je me suis converti sur l'histoire de Noé. Ah, pour vrai? Ah, un culte familial, OK. Ouais. Tu vois, j'avais oublié, ça devait être plate. Fait qu'on arrive au verset 4, je veux juste prendre le temps, parce que le verset 4, c'est le plus mélangeant des versets ici. Là. Le verset 4, « Les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. » Ici, il faut bien comprendre que le verset 4, grammaticalement, puis dans l'hébreu, c'est pas un lien de cause à effet avec le verset en avant. Okay? Il n'y a même pas de lien avec les deux premiers versets. C'est un statement, c'est une déclaration en soi, le verset 4. C'est comme si Dieu, en permettant que ce verset soit là, est en train de confirmer l'état, l'apogée du mal sur la terre avec ce verset-là. Mais il n'y a pas de lien, là, parce que grammaticalement, on ne peut même pas faire le lien que les géants sont le résultat de fils de Dieu qui se sont mariés avec les filles des hommes. C'est pas le... Même dans la façon qui est écrite dans l'hébreu, il n'y a pas de résultat, de lien grammatical.
Géant en stature.
Le mot qui est utilisé ici, seulement une autre fois dans l'Ancien Testament. Le mot pour géant ici, c'est le mot néphilim dans l'hébreu. Et dans Nombre 13, 32, il est utilisé aussi lorsque les Israélites sont arrivés dans un pays où il y avait des géants. Dans Nombre 13, 32... Donc, je pense qu'on avait envoyé des espions. Les espions ont fait leur rapport de ce qu'ils ont vu, puis ils ont dit que le pays que nous avons parcouru. Oui, c'est ça. C'est... Non, mais le gigantisme, c'est un phénomène qui était là avant le déluge, puis qui a subsisté encore pareil après le déluge, mais ça s'est estompé. Il restait des petites poches de personnes qui étaient géants, là, qui avaient du gigantisme dans leur génétique. Là. Puis on le voit même du temps des Israélites, il y avait carrément des tribus comme les fils d'Anak. Pour ceux qui se rappellent les histoires, là, il y avait vraiment des tribus qui encore des peuples qui étaient marqués par le gigantisme. Il y avait des gens qui étaient géants. Tout ça pour dire que c'est dans Nombre 13, le même mot est utilisé ici que le mot géant dans Genèse 6. Puis là, c'est la seule autre fois. Puis dans Nombre 13, c'est ça. Ça a été traduit aussi par géant vers les enfants d'Anak. Okay? Ce qui est intéressant, c'est que dans le mot Néphilim, il n'y a pas juste l'idée. C'est clair que c'était des géants aussi. OK? Il n'y a pas juste cette idée-là, le mot comme tel, là, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est quoi sa racine? Ça veut dire tomber sur, attaquer. Okay, c'est le mot néphilim, sa racine du verbe tomber sur quelqu'un, attaquer quelqu'un. Okay? C'est intéressant de garder ça en tête lorsqu'on lit le verset ici. Bon, il dit dans le fond, ce que le verset dit, c'est qu'à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, des néphilim. À l'époque où est-ce que les fils de Dieu se sont mariés avec les filles des hommes, à cette époque-là, il y avait aussi ce monde-là. Okay? C'est ce que le verset nous dit ici. Ça fait juste un constat sur ce qui se passait à l'époque où est-ce qu'il y a eu le mélange des descendances. Puis l'important, c'est la fin du verset. Ce sont ces géants-là, ces néphilim-là, ce sont les héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Excusez-moi, c'est le mot « héros » ici qui veut dire « tomber sur, attaquer ». Je pense que je me suis trompé dans ce que j'ai dit. C'est le mot « héros », ce sont les héros qui... Je ne veux pas me mélanger dans ce que je dis. Ce sont des héros qui furent fameux. Je pense que c'est le mot héros, mais je ne suis pas sûr. Je pense même. Non, je pense que c'est le mot géant. Oubliez ce que j'ai dit. Que Néphilim, c'est vraiment le mot géant. L'idée ici, c'est que nous, on lit ça, puis la façon que c'est traduit, on a l'impression que c'est des personnes qui sont héroïques, parce que c'est le mot héros qui a été traduit. Mais dans le fond, tout ce que ça dit, c'est des personnes qui sont notoires, qui étaient connues de leur époque. Ils étaient connus pas pour n'importe quoi, ils étaient connus probablement pour leur violence, parce que la racine du mot néphilim veut dire tomber sur, attaquer. C'est que dans le contexte ici qu'on a de Genèse 6, où ce qu'on nous montre la violence grandissante de l'humanité, le mélange des descendances, c'est comme si on arrive même à un point culminant où ce que même à l'époque où ça s'est passé, les gens qui étaient connus de cette époque-là, les gens qui étaient notoires, ben c'était des gens qui étaient connus pour leur violence. Il n'était pas connu parce qu'il était bon ou qu'il faisait des grandes choses, mais il était connu pour ça. C'est un petit peu l'interprétation qu'on peut donner à cause du mot néphilim, qui a vraiment une connotation de tomber sur ou attaquer. C'est comme si c'était des gens qui étaient reconnus pour être des attaquants ou whatever. C'est qu'imaginez-vous une tribu ou une gang de violents, OK? Puis il était tellement violent dans ce qu'il faisait, puis on peut facilement s'imaginer le genre d'affaires qu'il pouvait faire. Des fois, on lit l'Ancien Testament, puis on voit les Israélites qui arrivent, puis ils voient des peuples qui avaient des pratiques religieuses assez, des pratiques religieuses puis des pratiques morales assez déconcertantes. On peut s'imaginer qu'avant le déluge, ça devait être assez déconcertant aussi. À un point tel qui était notoire, qui était connu, tu sais. Quand tu parlais des Néphilim, mais ah, ça, c'est la gang qui font telle patente, là, tu sais. Puis c'était même eux qui étaient... Étais-tu juste connu ou même valorisé ou, de leur époque? C'est juste pour montrer comment est-ce que, avant le déluge, on était marqué vraiment par la violence, par le mal, par le désir de faire le mal, dans le fond. Puis c'est ça que les prochains versets nous disent. Fait que tout ça, matin, mon objectif, là, je sais que j'en avais parlé le 16 décembre, mais c'était juste de faire la transition entre Genèse 3 et le début du déluge. On va arriver au déluge. C'est juste de comprendre que, Si l'auteur a pris le temps de nous donner les histoires de Genèse 4, Genèse 5, Genèse 6, c'est pour qu'on comprenne que rendu au déluge, ben le péché s'est répandu sur la planète d'une façon incroyable. Autant que des gens qui ont marché pendant un temps avec l'Éternel, maintenant, ce n'est plus le cas du tout, du tout. Puis Dieu décide à ce moment-là, Dieu, ça l'affecte, ça l'afflige, il décide de repartir à zéro, il décide de radier toute la planète. Maintenant, ce qu'il faut retenir... L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Okay? Chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regrette d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur est affligé. L'Éternel dit, « Je vais effacer de la surface du sol l'homme que j'ai créé. » Pas juste l'homme, bétail, reptile, oiseau du ciel. Donc, on parle de tout ce qui vit sur la terre. On s'entend que durant le déluge, il y a bien des espèces aquatiques qui ont survécu, là. D'ailleurs, ils n'étaient pas dans le bateau, là. Il y en a plein qui sont morts, mais il y en a plein qui ont survécu aussi. Bien, il y en a plein qui sont morts. Ce qu'on va voir, bien, le déluge n'était pas juste une accumulation d'eau. Là. C'est que ça tue énormément aussi d'animaux aquatiques. Maintenant, Dieu dit, bon, je vais me débarrasser de tout, incluant même les animaux. Puis c'est le verset 8 sur lequel je veux qu'on s'arrête puis qu'on se rappelle. Parce que le déluge, on pourrait se rappeler du déluge comme étant surtout le jugement. Okay? C'est pas faux. Là, okay? Le déluge, c'est un jugement, puis on va le voir dans les prochains cours. C'est pas juste, c'est un jugement, puis lorsque vous allez réaliser que la nature du déluge est plus qu'une nature, c'est plus que de l'eau qui monte tranquillement pendant 150 jours. Okay? Ça devait être catastrophique. Si on avait été des spectateurs là, dans l'espace, puis on avait regardé la planète pendant le déluge, ça aurait fait peur. Okay? C'était tout qu'un jugement. Puis, je veux dire, on peut même pas reconnaître la planète d'avant que d'après le déluge, à un point tel que dans Pierre, dans 2 Pierre, ça appelle le monde d'avant le déluge, l'ancien monde. Okay? Les choses ont été bousculées d'une façon catastrophique, d'une façon violente aussi. Les éléments ont été violemment déchaînés. Et donc, c'est ça souvent qu'on se rappelle du déluge et c'est correct. OK? Mais ce qui ressort encore plus du déluge, c'est qu'on est ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, a décidé qu'à cause d'un homme qui a obtenu sa faveur, un seul, OK? Combien de millions, de centaines de millions qu'on était à ce moment-là, je ne sais pas. Mais à travers tout ça, puis ça devait être horrible. Nous, aujourd'hui, on voit des injustices dans la société, on a le goût d'aller mettre des bombes. Là, en tout cas, moi, je suis un colérique. Là, des fois, je ne suis pas content. Là, mais je veux dire, on se met à la place de Dieu qui constate sa création, qu'après si peu de temps, le rejette d'une façon effroyable, insolente, arrogante, avec le péché. Imaginez-vous les pires cochonneries, là, tout était là. Là, okay? Puis c'est ça, à 100 000 à l'heure tout le temps. Puis en plus, le petit groupe de personnes qui le suivaient ont décidé pour quelque chose d'aussi superficiel que des filles sont cute, qu'on se marie avec elles autres, de rejeter l'Éternel. Si j'étais Dieu, vu que je ne suis pas gracieux, je n'aurais probablement pas réagi de même. Okay? Mais Dieu, ce qui ressort du texte pour moi, c'est qu'il y a un homme qui marchait, puis Dieu, à cause de cet homme-là, a décidé qu'il obtenait faveur. Pour moi, la grâce de Dieu est beaucoup plus présente dans le déluge que le contraire. Et Dieu a gardé l'espèce humaine malgré tout ce qui venait de constater. En plus, pas juste l'espèce humaine, il a gardé toutes les espèces animales. Il a quand même protégé un couple de chaque espèce pour qu'ils puissent après ça se reproduire. Et même, lorsqu'on sera rendu là, on va voir que même durant le déluge, Dieu a été gracieux même avec Noé. Je viens de vous dire que ça devait être violemment catastrophique, la patente. Là. On arrive au début du chapitre 7, puis ça nous dit à un moment donné que Dieu a envoyé, Dieu se souvint de Noé durant le déluge, puis a envoyé un vent pour apaiser la mer. T'sais. Puis imaginez, il n'était pas dans un petit bateau, là, Rikiki, là. Peux-tu dire ton expression, chérie? Il était dans un méchant bateau. C'est que pour qu'il calme ça, c'est que ça devait brasser en titi. C'est pour moi que autour de l'arche, il devait avoir une protection spéciale, puis ailleurs, tu n'aurais même pas voulu être là. Dans un autre arche, admettons. T'aurais pas voulu être là. Donc, on termine avec ça. Je ne sais pas comment il reste. On est proche de 10 heures, c'est pas mal fini. Juste là, au niveau quincaillerie, moi, je suis parti pendant 3 dimanches. Je vous encourage à ne pas délaisser l'école du dimanche. Je vous encourage à aller dans le cours à Yannick, entre autres. Il y en a d'autres cours aussi. Il y a des temps de prière aussi. Il y a encore des hommes, des femmes qui se réunissent pour prier. Si vous voulez un cours au niveau magistral, Yannick qui enseigne sur le survol de la Bible, puis il est rendu où? Est-ce que quelqu'un sait où est-ce qu'il est rendu? Il fait le cantique des cantiques aujourd'hui, vous avez manqué ça. Trois semaines, on revient au début mars, puis on va poursuivre pendant 3 mois le cours ici jusqu'à Genèse 11. Okay? Il n'y a pas de cours ici.